VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson dans votre compagnie en ce jeudi 11 juin 2015. Au sommaire ce matin, épidémie d'Ebola, nouvelle hausse des cas en Guinée et en Sierra Leone.
Dialogue national en RD Congo, la mission de l'ONU offre ses bons offices.
En anglais, on dit, alors, it takes two to dance the tango, il faut deux personnes pour danser. Nous avons offert nos bons offices, mais il faut avoir le consentement des deux parties.
Les chefs d'État de cinq pays engagés dans la lutte contre Boko Haram réunis en sommet ce jeudi à Abuja.
Le président américain Barack Obama autorise l'envoi de 450 soldats supplémentaires en Irak.
Dans la partie magazine, nouveau coup de projecteur sur le débat autour d'un éventuel changement de la constitution au Rwanda. Après les pros hier, place ce matin aux voix qui sont contre.
À ce qui concerne ce troisième mandat, le problème est que le FPR essaie de faire la diversion pour tromper surtout la vigilance de l'opinion internationale. C'est une sorte de tragique comédie.
Ne manquez pas non plus la Minute Éco et le billet sportif.
Le nombre de nouveaux cas d'Ebola a progressé en Guinée et en Sierra Leone pour la deuxième semaine consécutive. C'est ce qu'a signalé hier l'Organisation mondiale de la santé, comme le rapporte l'AFP. Durant la première semaine de juin, il y a eu 16 nouveaux cas en Guinée, alors qu'en Sierra Leone, il y a eu 15 nouveaux cas. Non seulement les cas ont augmenté, mais les zones géographiques concernées se sont étendues en Guinée, touchant notamment de nouveau Conakry, la capitale, d'après l'OMS. La maladie est aussi réapparue dans le district de Kindia, à l'est de Conakry. Au total, l'organisation a recensé 27 237 cas d'Ebola, dont 11 158 décès.
La disparition à Abidjan en 2004 du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer revient sur le tapis. Paris dit veiller à ce que l'enquête ne connaisse aucune entrave. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre française de la Justice, Christiana Taubira, en visite en Côte d'Ivoire. Déclaration faite après une audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara, d'après l'AFP. Guy-André s'intéressait à des malversations, notamment dans la filière cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial.
Lutte contre Boko Haram, le quartier général de la force militaire multinationale chargé de combattre le groupe islamiste nigérian durant les 12 prochains mois, coûtera quelque 30 millions de dollars. C'est l'évaluation du chef de la commission du bassin du lac Tchad, organisation qui regroupe le Nigeria et ses voisins. Sanusi Imran Abdullahi a appelé à un soutien financier, rapporte l'AFP. Longtemps attendu, la force d'intervention conjointe multinationale, dont le quartier général est basé dans la capitale tchadienne, N'Djamena, doit compter 8 700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria et quatre pays voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Justement, les chefs d'État de ces pays, dont le nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari, se réunissent aujourd'hui à Abuja pour un sommet consacré à ce dossier. Depuis fin mai, Boko Haram a multiplié ses attaques dans le nord-est du pays, faisant au moins 109 victimes.
Toujours au Nigeria, les autorités ont mis derrière les barreaux 14 personnes accusées d'implication dans un commerce illégal de produits pétroliers. Ce sont des étrangers de nationalité britannique, russe, ukrainienne et japonaise, chez Romain Dorsil.
Les 14 ont comparu devant la haute cour de Lagos hier mercredi. Ils auraient stocké sans autorisation quelques 4500 tonnes de produits pétroliers dans trois navires au mois de février dernier. Ils ont clamé leur innocence et demandé par le biais de leurs avocats à être remis en liberté sous caution, ce que le juge a refusé. D'ailleurs, leurs passeports ont été confisqués en attendant la prochaine audience dans 7 jours. On a longtemps dénoncé le phénomène de la fraude dans le marché pétrolier nigérian, le pays étant obligé d'importer de l'or noir raffiné alors qu'il est le premier producteur du continent. Ces pratiques illicites coûtent à l'État nigérian la bagatelle de 6 milliards de dollars l'an. Le nouveau président Muhammadu Buhari s'est engagé à combattre la corruption, notamment dans la vente du pétrole produit au Nigeria.
Le Burundi, vous le savez, a fixé de nouvelles dates pour les élections. 29 juin pour les législatives et 15 juillet pour la présidentielle. Mais après un mois et demi de manifestations, sévèrement réprimées selon l'AFP, les opposants à un troisième mandat du chef de l'État Pierre Nkurunziza estiment toujours que les conditions ne sont pas remplies pour organiser ces scrutins. Des milliers de Burundais ont fui le pays pour se réfugier au Rwanda. Notre envoyé spécial Bagassi Koura se trouve en ce moment même au camp de réfugiés de Mahama, dans l'est du Rwanda.
Le camp de Mahama est situé juste à la frontière tanzanienne, dans l'est du Rwanda. C'est un vaste camp qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. On parle de 24 000 réfugiés qui ont tous fui le Burundi depuis fin avril, depuis ces violences qui ont fait suite à la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Les humanitaires expliquent ici que les premières vagues étaient composées surtout de femmes et d'enfants. Puis après, certainement voyant que la crise s'enlisait, les hommes et pères de famille surtout ont suivi. Dès les premiers jours, les autorités rwandaises et les organisations humanitaires ont pris le problème très au sérieux, mis les moyens qu'il faut. Ce qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème majeur dans ce camp, comme par exemple cette épidémie de choléra dans un autre camp de réfugiés burundais en Tanzanie. Ce qu'on explique ici, c'est que les gens pensaient que ça allait être une situation temporaire, mais ces dernières semaines, beaucoup se disent que cette crise va s'installer dans la durée. Les autorités rwandaises et aussi les humanitaires se préparent à accueillir ces gens pour une assez longue période. On parle même d'ailleurs de construction de maisons dans les villages avoisinants pour pouvoir abriter ces gens et peut-être à la longue leur trouver des terrains pour cultiver pour ceux qui sont paysans.
Tensions politiques en République démocratique du Congo. Le chef de la mission de l'ONU dans le pays, Martin Kobler, propose ses bons offices pour permettre un dialogue national en vue d'élections apaisées. Nous écoutons le patron de la MONUSCO.
Je salue alors le gouvernement, le président, de lancer les consultations qu'on a fait. Le président, il a convoqué les groupes sociaux, les églises, aussi les partis politiques, et pour avoir des consultations. Je crois qu'il veut aussi parler avec la communauté internationale en ce qui concerne maintenant les bons offices. En anglais, on dit, alors, it takes two to dance a tango, il faut deux personnes pour danser. Nous avons offert nos bons offices, mais il faut avoir le consentement des deux parti. Ça ne marche pas si on impose. On ne peut pas imposer les bons offices. Nous sommes prêts ici. Nous sommes impartials. Mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes basés sur la résolution 2211. Nous avons le principe de constitutionnalité du calendrier électoral menant jusqu'aux élections au novembre 2016. Nos bons offices, nous sommes prêts à le faire, mais il faut avoir aussi les autres. Normalement, nous allons avoir une réunion aussi, communauté internationale, avec le chef de l'État, et puis on pourra discuter ces choses.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Nations Unies et les puissances mondiales appellent les factions rivales libyennes à accepter un accord de partage du pouvoir et mettre ainsi fin à près de 4 ans de guerre, de terrorisme et de tourmente politique dans leur pays. Compte rendu de Lionel Gaïma.
Une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion hier à Berlin souligne qu'un règlement inclusif du conflit est la seule solution durable au problème de la Libye. Les diplomates onusiens et les représentants de divers pays ont exhorté tous les Libyens à s'atteler à lever les derniers obstacles dans la voie d'un accord. Plus de 20 délégués libyens étaient à Berlin pour des pourparlers, incluant les représentants de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, de même que ceux de l'Union européenne, de l'Italie, de l'Espagne et des pays voisins de la Libye. L'émissaire onusien pour la Libye, Bernardino Leon, a tenté jusqu'ici sans succès d'amener les parties libyennes au consensus. La Libye est plongée dans un chaos depuis le renversement en 2011 de Muammar Gaddafi. Des extrémistes islamistes ont pris contrôle de Tripoli, la capitale, l'année dernière, installant un gouvernement rival et forçant le gouvernement internationalement reconnu à se réfugier dans l'est du pays. Le groupe État islamique a pris avantage du vide pour conquérir le pays. Des milliers de Libyens fuyant la violence s'en remettent à des passeurs pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Europe.
Le président américain a annoncé hier un renforcement du dispositif pour combattre les djihadistes du groupe État islamique. Barack Obama a autorisé le déploiement de 450 soldats américains supplémentaires, portant leur nombre total à 3550, pour accélérer la formation des troupes irakiennes, en particulier des sunnites engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Le locataire de la Maison-Blanche a également donné son feu vert à la livraison rapide de matériel militaire aux forces irakiennes, y compris les forces Kurdes Peshmerga et combattants de tribus locales opérant sous commandement irakien.
La Grèce et ses principaux interlocuteurs ont renoué le dialogue au plus haut niveau à Bruxelles. Ils sont convenus d'intensifier les efforts pour débloquer les discussions et parvenir enfin à un accord entre Athènes et ses créanciers, d'après l'AFP. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est entretenu hier soir avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande en marge d'un sommet entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
Ici aux États-Unis, le policier qui s'est livré à une intervention musclée contre de jeunes Africains-Américains au Texas a laissé ses émotions prendre le dessus. C'est ce qu'a affirmé son avocate hier, réfutant la thèse du racisme, indique l'AFP. Une vidéo postée sur YouTube montre le policier Eric Casebolt jeter violemment à terre une jeune fille en maillot de bain avant de pointer son arme sur les adolescents Africains-Américains, ce qui a provoqué de nouvelles protestations contre les violences policières dans le pays. Le policier a démissionné mardi.
Et maintenant, les nouvelles économiques en Afrique et ailleurs dans le monde, c'est la Minute Éco avec ce matin Jean-Roger Billon.
La Banque de la République du Burundi a tenu à tranquilliser mercredi la population quant à la fiabilité, la qualité et la sécurité des nouveaux billets de 10 000, 5 000, 2 000 et 500 francs burundais émis au mois d'avril 2015. Lors d'une conférence de presse tenue hier, M. Clément Boutoke, conseiller à la BRB, chargé de l'émission des billets, a démenti les allégations faisant état de circulation de faux billets fabriqués en Chine dans l'objectif de financer les campagnes électorales et qui circuleraient en même temps que les vrais billets. En Côte d'Ivoire, l'opération de déguerpissement des orpailleurs clandestins a permis de fermer 158 sites dans le centre et le nord du pays. 39 personnes ont été interpellées d'après APA, qui cite des sources officielles dans la capitale économique ivoirienne. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres présidé par le président Ouattara, cette opération s'est déroulée du 20 avril au 1er juin dernier. Un nouveau chemin de fer va relier Djibouti et l'Éthiopie pour faciliter les échanges économiques entre les deux pays en pleine croissance. Le dernier rail de cette ligne sera posé aujourd'hui par le président djiboutien et le premier ministre éthiopien avec l'ambition de la prolonger à terme jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. La voie ferrée en construction en direction d'Addis Abeba, capitale éthiopienne, doit permettre de réduire la durée du trajet entre les deux villes à moins de 10 heures. Les camions de marchandises mettent actuellement près de 2 jours pour effectuer le parcours sur une route montagneuse et surchargée.
Merci Jean-Roger. Nous passons à présent à un condensé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pinou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Pour démarrer, belle performance de l'Afrique à la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Hier au petit matin, heure de Bamako, les Aiglons ont frappé très fort en éliminant le Ghana 3-0. Les hommes de Fanieri Diarra, supérieurs tactiquement comme dans le réalisme offensif, ont donc logiquement écarté les Black Satellites. Diadié, Samasekou, Dieudonné et Aboubakar Doumbia ont été les buteurs maliens. Au prochain tour, les Maliens rencontreront les vainqueurs du match Allemagne-Nigeria. Le coup d'envoi, c'est 7h30, temps universel.
Autre belle qualification, celle du Sénégal.
Les Lionceaux de la Teranga ont éliminé l'Ukraine à l'issue de la séance des tirs au but. À la fin du temps réglementaire et des prolongations, il y avait un partout entre les deux équipes. Le grand artisan de cette qualification se nomme Ibrahim Assi. Impérial dans son but, le portier sénégalais a réussi à sortir 3 tirs au but ukrainiens lors de la séance des pénaltys. Le Sénégal affrontera le vainqueur du match Autriche-Ouzbékistan. Autre 8e de finale en Nouvelle-Zélande ce jeudi. Le pays organisateur, les Kiwis, face au Portugal. Et le choc de l'Amérique latine, le Brésil, face à l'Uruguay. Autre Coupe du Monde, Jacques, celle des féminines au Canada.
Oui, Nicolas, affiche alléchante ce jeudi soir. Nous verrons si les Ivoiriennes se sont remises de la correction 10-0 infligée lors du premier match. La Côte d'Ivoire affrontera la Thaïlande. Également de programme, Allemagne, Norvège, Chine, Pays-Bas et Canada, Nouvelle-Zélande. Autre nouvelle, la FIFA toujours ternie par le scandale de pots de vin.
L'instance dirigeante du foot mondial a suspendu le processus d'attribution du Mondial 2026. Une semaine après la démission de Sepp Blatter, la FIFA précise que des décisions seront prises lors d'un prochain comité exécutif extraordinaire en juillet. le même comité exécutif qui devra fixer la date du congrès électif prévu entre décembre et mars 2016 pour élire le successeur de Sepp Blatter.
La finale NBA, quatrième manche la nuit prochaine.
L'équipe de Golden State va-t-elle réagir après la défaite mardi soir face à Cleveland, 91-96? Les Warriors doivent relever la tête alors que les Cavaliers ne sont plus qu'à deux victoires d'un titre qui leur échappe depuis toujours. Le dernier titre des Californiens remonte à 1975.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. C'est l'heure maintenant d'entamer la tranche magazine. D'emblée, cap sur le Rwanda, où l'actualité politique, nous vous le disions hier, est dominée par le débat sur un éventuel changement de la Constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Hier, vous avez entendu les pro-modifications des partisans qui affirment avoir recueilli 4 millions de signatures en faveur d'une révision constitutionnelle. Une pétition qui est toutefois décrite comme une simple manœuvre du parti au pouvoir. C'est le président du Parti social, Imbirakuri, qui l'a dit au micro de Bagasekura, qui se trouve actuellement au Rwanda. Nous vous proposons d'écouter Maître Bernard Taganda.
En ce qui concerne ce troisième mandat, le problème est que, pour le moment, le FPR essaie de faire la diversion pour tromper surtout la vigilance de l'opinion internationale. C'est une sorte de tragique comédie.
Mais quand on parle aux gens dans la rue, beaucoup semblent dire qu'il faut modifier la constitution, hein, parce qu'ils disent qu'ils aiment Kagame, qu'il a fait beaucoup de réalisations.
Non, c'est un pur mensonge. Ces gens-là ne sont pas libres d'esprit de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils comptent faire. Toute personne qui dit quelque chose contraire à ce que FPR pense, il est considéré comme l'ennemi du régime. Pour le moment, nous avons des grandes figures emblématiques de l'opposition qui sont contrées à l'étranger. Pourquoi ? Nous avons des journalistes qui sont à l'étranger. Pourquoi ? Nous avons des hommes d'affaires qui sont contrées à l'étranger. Nous avons des prêtres. Autant de personnes qui ont quitté le pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ont manifesté leur indépendance d'esprit. S'il y a développement au Rwanda, pourquoi il n'y a pas la hausse des salaires ? Pourquoi il n'y a pas des industries? Il y a tant de choses qui montrent que le pays, il y a un développement au niveau du pays. Lorsqu'il y a le partage de la richesse, lorsque nous avons la grande majorité de la population qui quitte le seuil de pauvreté pour aller à un seuil un peu décent.
On parle de plusieurs millions de pétitions hein, qui sont déposées devant le Parlement.
Ces fameuses pétitions, sur le plan juridique, légal, n'a aucun effet. C'est pour faire diversion, pour rouler l'opinion internationale dans la farine.
Maître Bernard Taganda, président du Parti social Imbirakuri à Kigali.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine à la question du troisième mandat. S'éterniser au pouvoir en changeant la constitution est-il un mal africain ? Le 21e siècle est-il celui de l'alternance politique sur le continent ? Et les Occidentaux doivent-ils imposer leurs pratiques démocratiques aux pays africains ? Nous vous invitons à en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission 19h, temps universel, sur VOA.
En Libye, les autorités soupçonnent qu'il y a chez elles 1 million de sans-papiers. Certains travaillent dans le pays, mais la plupart ne rêvent que d'emprunter les embarcations de fortune des passeurs pour se rendre en Italie. Une odyssée qui a souvent des conséquences tragiques en Méditerranée, comme nous le dit Timothée de Nangmaille.
Les officiels libyens dont le pays se débat dans ses propres problèmes de guerre civile reconnaissent qu'ils sont débordés. Un correspondant de la VOA a constaté de visu la situation cette semaine dans des camps de détention bondés et bruyants de Tripoli, la capitale. Collins, un Ghanéen de 30 ans, qui avait du mal à sécher ses larmes.
They gave us food. I want to go back to Ghana. I love my country.
Ils nous donnent à manger, mais je veux retourner au Ghana. J'aime mon pays. J'étais seulement parti pour me faire un peu d'argent pour pouvoir monter une affaire à mon retour. J'étais dans le bâtiment. Je louais des produits d'échafaudage, outils et autres équipements. Donc, j'étais venu ici pour avoir plus d'argent en vue d'une expansion de mon entreprise, a répété Collins. Sous les rayons ardents du soleil libyen, dans la cour du centre, Collins était en compagnie de 300 autres migrants arrêtés par la police ou les milices libyennes en tentant de se rendre en Europe ou en travaillant illégalement dans le pays. Richard, un plâtrier de 28 ans, également du Ghana. Nous prions pour qu'ils puissent faire quelque chose, pour qu'ils nous libèrent. S'ils ne peuvent pas nous libérer, qu'ils nous ramènent chez nous pour nous permettre de recouvrer notre liberté parce que nous sommes ici et nous souffrons trop. La douleur est trop forte. Les gardiens de ce camp de détention sur la route de l'aéroport de Tripoli sont essentiellement des miliciens n'ayant aucune expérience. Et ça se voit. Et leur travail n'est pas facilité par les risques de réactions violentes dans un camp bondé de gens désespérés et où les conditions d'hygiène laissent à désirer. Selon le directeur du centre, Meloud Djuma Salem, les migrants viennent pratiquement de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Voyant l'effet qu'avaient sur le reporter de la VOA, les histoires que racontaient les migrants, bien qu'aucun d'eux n'ait accusé les gardiens de mauvais traitements, Salem a voulu donner sa version. Selon Djuma Salem, le reporter doit se rappeler que certains de ces hommes sont des criminels. La nuit dernière, ils ont essayé de s'évader en cassant les vitres d'une fenêtre, a-t-il dit, ajoutant qu'ils créent beaucoup de problèmes. Djuma Salem appelle la communauté internationale à aider à mettre en place des installations adéquates pour faire face aux migrants et assurer leur sécurité.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
On parle environnement maintenant. En visite aux États-Unis, la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, a fait la promotion du prochain sommet sur le climat, la COP21, qui aura lieu à Paris en décembre prochain. Un sommet important pour l'Afrique, particulièrement touchée par le réchauffement climatique, en jeu notamment le financement du Fonds vert de l'ONU en faveur des pays en développement. Mais quelles sont les actions qui peuvent être prises pour le continent africain? Au micro de Claire Morin-Gibourg. La réponse de Ségolène Royal.
D'abord, je voudrais dire que l'avenir du continent africain, c'est quelque chose de crucial. Je me confierai que c'est mon pays natal. Vous voyez, je suis extrêmement attentive à ce qui se passe en Afrique. Ce qu'il faut, c'est permettre à l'Afrique d'accéder aux technologies du renouvelable, le solaire, l'énergie thermique des mers, l'éolien, etc., la géothermie également, parce que l'Afrique a tout pour réussir. Et donc, ce transfert de technologies, c'est la clé du développement économique en Afrique.
Où en est-on du financement du Fonds vert ?
Alors, le Fonds vert a ses 10 milliards de dollars aujourd'hui. Ce qui reste à faire, c'est des engagements concrets. Par exemple, les pays du G7 ont décidé qu'il y aurait une utilisation du Fonds vert prioritaire pour les énergies renouvelables en Afrique. Donc ça, c'est déjà une initiative concrète. Il y a aussi tous les problèmes de replantation forestière, les problèmes de protection de la biodiversité, qui sont absolument essentiels. Et ensuite, il y a l'autre fonds de 100 milliards d'euros d'investissement financier, d'investissement économique, qui doivent également être mis en place pour permettre le développement économique de certaines entreprises.
Êtes-vous particulièrement inquiète du sort des réfugiés climatiques ?
Oui, parce que la question des réfugiés climatiques, vous voyez, c'est quelque chose qui déstabilise la sécurité. Donc, si on arrive à fixer les populations parce qu'elles auront accès à l'eau potable, qu'elles pourront cultiver la terre, qu'elles auront accès à l'énergie solaire, que leurs enfants pourront apprendre parce qu'ils auront de l'éclairage le soir, on règle vraiment la question de la survie, même la question de la qualité de vie. Et inversement, si on ne réussit pas à limiter le réchauffement climatique, on aura des déplacements massifs de populations à l'échelle planétaire, donc menaçant la sécurité, nourrissant les intégrismes et les terrorismes de toute nature, parce que quand les populations sont rejetées vers la misère, à ce moment-là, elles deviennent le terreau de manipulateurs et d'idéologies destructrices. Donc c'est un enjeu considérable. Derrière le climat, il y a l'enjeu de la sécurité.
Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Le Vatican a désormais une instance chargée de juger les prêtres accusés de pédophilie, et ce dans les cas des évêques qui cachent des abus sexuels. La décision du pape François, annoncée hier, vient renforcer le travail de la commission pontificale de protection des mineurs. Pour un éclairage, Chérubin Dorsil a joint le journaliste Albert Mianzokuta de Radio Vatican.
D'abord, il faut préciser que nous sommes ici dans une session pleine de travaux de la commission des cardinaux, 9 cardinaux qui ont été choisis par le pape pour le conseiller dans la réforme de la curie romaine. Et donc, c'est dans le cadre de cette session que la décision a été annoncée de cette commission. La commission, en fait, de protection des mineurs existe déjà depuis un peu plus de 3 mois au Vatican, un peu plus même. Ici, il s'agit de lui donner toute la garniture officielle, toute la garniture qui puisse faire qu'elle joue pleinement son jeu en un mot commençant, tolérance zéro pour les prêtres et évêques pédophiles au sein de l'Église catholique.
Cela répond aussi à des plaintes transmises par la congrégation concernant les évêques.
Très certainement, parce que l'un ou l'autre prélat a eu l'impression qu'il y avait comme une espèce d'impunité couvrant pas directement les pédophiles eux-mêmes, c'est-à-dire pas les auteurs des actes pédophiles, mais surtout les évêques et archevêques qui ont été tenus au courant d'un comportement de ce genre dans leur diocèse et qui ont eu jusqu'ici une attitude assez généralisée, celle de couvrir, sinon de fermer un œil, si pas tous les deux, sur ces abus et de ne pas les dénoncer. Aujourd'hui, donc, les choses sont plus transparentes. Un évêque tenu au courant de cela doit saisir la justice, d'abord la justice civile de la juridiction dans laquelle il est établi, et ensuite en avertir le Vatican qui fait agir la commission de protection des mineurs.
Quand le droit canon entre en jeu, à quelles conséquences font face les éventuels coupables ?
Alors, deux niveaux de sanctions. Il y a d'abord l'évêque qui, tenu au courant, a voulu à tout prix, mettre le coude sur un dossier aussi scabreux. Celui-là, il est rappelé à l'ordre ou alors carrément démis de sa fonction. Mais je pense que la sanction ne pourrait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Par contre, il n'est plus question de parler d'un prêtre, d'un évêque lui-même impliqué dans les abus sexuels. Là, maintenant, la règle, la norme en vigueur depuis le pape Benoît XVI, c'est la mise à l'écart pure et simple.
Et ces coupables présumés pourront être poursuivis au pénal ?
Bien entendu. Et d'ailleurs, je crois qu'une des normes justement révolutionnaires édictées par le pape Benoît XVI était que l'évêque ou le prêtre ou l'autorité ecclésiastique le plus au courant des faits était tenu de se mettre à la disposition de la justice pour l'éclairer, donner toutes les informations sans en cacher aucune.
Le vaticaniste Albert Mianzokuta joint à Rome en Italie. À Madagascar, le bras de fer entre le président Ir Rajaonarimampiane et les députés frondeurs se joue maintenant devant la Haute Cour constitutionnelle. Timothée Donangmaï a joint le juriste Georges Ravelson.
Le président, quand il est venu au pouvoir, il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale. Tandis que l'ancien président de la transition, il a réuni les partisans qui l'ont soutenu pendant la transition. La Constitution prévoit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Or, la majorité était à géométrie variable, si bien que la nomination incombe au président de la République. Dans les premières élections, c'est les gens du parti MAPAR qui avaient la majorité, ce qui n'arrangeait pas le président de la République, qui a donc manœuvré. Il a pu obtenir une majorité en prenant des alliances auprès des autres entités politiques de l'Assemblée nationale. Cette entité, après, a balayé le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui n'était que le ministre de la Justice de la période de transition. C'est là qu'a commencé les bagarres. Et on a reproché au président de ne pas respecter l'article 54 de la Constitution. Puis après, avec une alliance avec d'autres entités, le président a pu recueillir donc une majorité. Et avec cette majorité, il a nommé un premier ministre.
Comment en est-on venu à ce vote des députés pour évincer le président ?
Ce vote, semble-t-il, était entaché d'irrégularités et qu'il y a eu des trucages de la part des députés frondeurs. Ils ont pu ensuite introduire des requêtes auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Les arguments invoqués par les députés frondeurs étaient contestés parce que les gens qui ont voté, semble-t-il, n'avaient pas le nombre requis pour faire passer la motion de déchéance. La question est là. Il appartient à la Haute Cour constitutionnelle d'apprécier et la procédure et les motifs donc de la motion de déchéance.
Quand est-ce que la Haute Cour constitutionnelle va se prononcer sur ce dossier?
Normalement, dans 15 jours du dépôt de la motion, c'est-à-dire ça pourrait intervenir dans les 48 heures.
Le juriste Georges Ravelson-Oden, joint à Antananarive. Et voilà, l'édition matinale du Monde aujourd'hui, en ce jeudi 11 juin, prend fin ici à la réalisation Anne Albertson. John Ellison était notre ingénieur. Au micro, Jacques Aristide. Depuis Washington, nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. À demain matin, take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.